Sahara, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Manelakidze à la présentation de cette édition du mardi 21 septembre 2021. Voici d'abord le sommaire. Ouverture à New York de l'Assemblée générale de l'ONU, Joe Biden assure qu'il ne veut pas de guerre froide avec la Chine. Au Soudan, une tentative de coup d'État avortée, Khartoum accuse des partisans de l'ex-président Omar el-Béchir. Au Tchad, 27 morts dans de nouveaux combats entre éleveurs et cultivateurs. Au Canada, les libéraux du Premier ministre sortant Justin Trudeau remportent les législatives sans obtenir la majorité. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Début aujourd'hui des assemblées générales de l'ONU à New York. Plus de 120 chefs d'État ont choisi de venir en personne. Parmi eux, Joe Biden, le président des États-Unis, l'un des premiers à avoir pris la parole ce matin. Les détails avec Dilly Dico.
La 76e session des assemblées générales s'est ouverte ce matin avec un discours d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies.
I'm here to sound the alarm.
Je suis ici pour tirer la sonnette d'alarme. Le monde doit se réveiller. Nous sommes au bord du précipice et nous continuons de nous en approcher. Jamais notre monde n'a été aussi menacé ou plus visé. Nous faisons face à la plus grande avalanche des crises de notre existence.
Dans sa première adresse à l'ONU, le dirigeant américain Joe Biden a mis en avant la nécessité de travailler ensemble pour faire face aux défis présentés par la pandémie, le changement climatique et le respect de la dignité humaine.
Simply put, we stand, in my view, at an inflection point.
Tout simplement, à mon avis, nous nous trouvons à un moment crucial de l'histoire. Et je suis ici aujourd'hui pour partager avec vous l'intention des États-Unis de travailler avec les partenaires et les alliés pour répondre à ces défis, mettre fin à cette pandémie, faire face à la crise climatique et faire face à la menace terroriste telle qu'elle se présente aujourd'hui.
L'autre discours notable ce mardi est celui de Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine. Dilly Dico, New York, VOA Afrique.
Le président Joe Biden a également affirmé que les États-Unis reviendront pleinement dans l'accord sur le nucléaire iranien si l'Iran fait de même, en promettant d'empêcher Téhéran de se doter de la bombe atomique. Les Nations Unies ont exprimé mardi leur profonde inquiétude face aux expulsions massives de migrants haïtiens par les États-Unis, mettant en garde contre le risque que cela fait courir à des gens qui peuvent sérieusement prétendre au droit d'asile. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme et l'Agence onusienne pour les réfugiés ont joint leur voix pour rappeler que tout demandeur d'asile a le droit de voir sa demande examinée. Nous reviendrons sur les expulsions massives de migrants haïtiens dans notre partie magazine. Au Soudan, les autorités ont annoncé avoir déjoué une tentative de coup d'État, un coup impliquant des responsables militaires et des civils liés au régime de l'ex-président Omar el-Béchir. Les précisions avec Mohamedou Oumfa.
Une tentative de coup d'État manquée menée par un groupe d'officiers et de civils issus de l'ancien régime a été maîtrisée à l'aube mardi, a déclaré à la télévision d'État le ministre de l'Information, Hamza Bahloul. Les autorités ont arrêté les chefs du complot manqué et la situation est désormais sous contrôle, a-t-il ajouté. Les auteurs du complot ont bien préparé leur projet, a souligné le premier ministre Abdallah Hamdok dans un discours télévisé, citant notamment la détérioration de l'état de la sécurité dans des villes. Dans le centre de Khartoum, la circulation semblait fluide. Les forces de sécurité ont toutefois bloqué le principal pont reliant Khartoum à sa ville jumelle d'Omdurman de l'autre côté du Nil. Plus tard dans la journée, des manifestants ont protesté dans plusieurs villes contre la tentative de putsch, brandissant des drapeaux soudanais et scandant non au pouvoir militaire ou non au coup d'État.
La Troïka, États-Unis, Grande-Bretagne et Norvège, à la manœuvre sur le dossier soudanais, a condamné cette tentative de coup d'État. La mission de l'ONU au Soudan a refusé tout appel à remplacer le pouvoir de transition par un pouvoir militaire. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde contre tout ce qui saperait la transition politique. Pour sa part, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a encouragé tous les acteurs à se tenir fermement aux côtés des autorités légales de la transition. Au Tchad, 27 personnes ont été tuées dimanche dans des violences entre éleveurs nomades et cultivateurs sédentaires dans l'est du pays lors d'affrontements liés à la possession et l'utilisation des terres. Yakuba Ouedraogo.
Des autorités traditionnelles ont vendu en 2017 des espaces à des éleveurs nomades arabes qui veulent s'installer dans la localité, mais les cultivateurs autochtones des Wadaniens contestent cette vente, ce qui a entraîné des affrontements, explique Mahamat Ahmad Alabo, ministre de la Justice. Ils se disputent une superficie de 25 km², ajoute M. Alabo, qui se trouve à Abéché, à la tête d'une délégation gouvernementale pour calmer la situation. Ces affrontements ont eu lieu dans les villages de Kijimina et Tiyo, situés dans une zone aride de la bande sahélienne à 700 km de N'Djamena. Les violences entre ces communautés nomades et sédentaires sont fréquentes dans le centre et le sud du Tchad, où nombre d'habitants sont armés. Début août, 22 personnes ont péri dans des combats pour des raisons similaires à 200 km de N'Djamena.
Toujours au Tchad, au moins 9 villageois ont été tués en début de semaine par des djihadistes dans le centre-ouest du pays, une région en proie à d'incessantes attaques de Boko Haram et d'un groupe État islamique, ont assuré mardi le gouverneur local et une ONG. Un journaliste congolais a été interpellé et été interrogé mardi comme témoin à propos d'une vidéo du meurtre de deux experts des Nations Unies en mars 2017 dans le centre de la RDC. Sosten Kambindi, correspondant de l'AFP et du média congolais en ligne actualité.cd à Kananga, chef-lieu du Kasaï central, a été arrêté à Kinshasa dans sa chambre d'hôtel dans la nuit de lundi à mardi. Le 12 mars 2017, l'Américain Michael Sharp et la Suédoise d'origine chilienne Zaida Catalan, deux jeunes experts missionnés par l'ONU pour enquêter sur des violences dans la région du Kasaï, ont été tués. Le Burundi a promis mardi une enquête minutieuse après une série d'explosions survenues lundi soir dans la capitale économique Bujumbura, qui font suite à d'autres attaques ces derniers jours. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur affirmait que 3 personnes ont été tuées par des terroristes encore non identifiés qui ont lancé des grenades, notamment sur un parking de bus. Le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni a évoqué plus de 100 blessés. L'opération menée par l'armée nigériane contre le banditisme dans le nord-ouest du pays inquiète les habitants et autorités des régions voisines, où des hommes armés, membres de ces groupes criminels, ont récemment fui en nombre. Ces hommes, connus localement sous le nom de bandits, pillent les villages, volent le bétail et pratiquent des enlèvements contre rançon, a déclaré M. Zuma, apte à comparaître. Le Parlement libyen a voté mardi une motion de censure contre le gouvernement de transition du Premier ministre Abdelhamid Bayiba. La motion a été votée par 89 députés sur les 113 présents, a annoncé le porte-parole du Parlement, Abdallah Blihek. Cette motion a aussitôt été rejetée par le Conseil libyen basé à Tripoli. Ce vote vient aggraver les différends entre les camps rivaux à 3 mois d'élections censées mettre fin à une décennie de chaos.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau a été réélu à l'issue des élections législatives. Dans son allocution de victoire, il a promis aux Canadiens un avenir meilleur une fois le pays sorti de la pandémie. Claire Morégibourg.
Les libéraux de Justin Trudeau ont remporté les législatives canadiennes, mais c'est une demi-victoire pour le Premier ministre sortant qui n'est pas parvenu à redevenir majoritaire à l'issue d'une campagne difficile. Selon des résultats préliminaires, Justin Trudeau obtient 158 sièges sous le seuil fatidique des 170 sièges pour constituer une majorité. Il sera donc contraint de former un gouvernement minoritaire comme en 2019. Or, c'est précisément pour sortir de cette situation qu'il avait déclenché des élections anticipées à la mi-août.
You are sending us back to work with a clear mandate to get Canada through this pandemic.
Les Canadiens nous renvoient au pouvoir avec un mandat clair pour parvenir à sortir de cette pandémie et aller vers un avenir meilleur. C'est toutefois félicité M. Trudeau, affirmant qu'il était prêt pour ce nouveau mandat et heureux que les Canadiens aient choisi un programme progressiste.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Retrouvons ce soir Jean-Roger Billon pour la Minute Éco dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs.
En Côte d'Ivoire, la société des transports abidjanais, Sotra, s'installe à Bouaké, deuxième ville du pays. La première société de transport urbain organisée de l'Afrique de l'Ouest procède à une extension de son réseau en prévision de la Coupe d'Afrique des Nations en 2023. Bouaké constitue la première étape avant les autres grandes villes du pays telles que Yamoussoukro, Korogo et San Pedro. Soudan du Sud, plus de 420 000 personnes déplacées ou affectées par des inondations ont besoin d'aide selon l'ONU. Le mois dernier, OCHA avait alerté sur une réduction de ses moyens, soulignant n'avoir reçu que 54 % des 1,7 milliard de dollars nécessaires au financement des programmes dans le pays. 4 Sud-Soudanais sur 5 vivent dans la pauvreté absolue selon des données de la Banque mondiale, tandis que 60 % de la population souffre gravement de la faim en raison de conflits, de sécheresses ou d'inondations. L'ONU organise jeudi à New York un sommet mondial sur la faim et le dérèglement climatique afin d'inciter les États à réformer leur système alimentaire pour tenter de répondre aux défis agricoles. Plus de 85 chefs d'État et de gouvernement devraient participer à ce sommet en virtuel. La faim continue de progresser. Elle touche 811 millions de personnes dans le monde, tandis que 2,7 milliards de personnes n'ont pas accès à une alimentation saine, selon un rapport de l'ONU.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports, Yacouba Ouédraogo. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Iron Bibi, l'homme le plus fort du monde, a été accueilli en héros à l'aéroport de Ouagadougou par ses fans et les autorités sportives du Burkina Faso. Le natif de Bobo Dioulasso a battu le record mondial du log lift, entendez soulever de bûches, en Écosse le week-end écoulé en soulevant une charge de 229 kilos. Bagassi Koura.
C'est un retour triomphal au bercail pour Cheikh Ahmed Al-Hassan Sanou, connu sous le pseudo d'Iron Bibi. Le Burkinabé est arrivé à l'aéroport de Ouagadougou, auréolé du titre d'homme le plus fort du monde. Iron Bibi a l'habitude de faire tomber des records. Il détient le record du monde Guinness pour la plupart des presses en tête en une minute. Mais celui-là a une saveur particulière.
C'est très grand pour moi parce que depuis 2018, je cherche à briser ce record du monde. Ça fait 16 ans que Zidrunna Savitska détient ce record. Il vient de l'Italie et beaucoup d'athlètes qui ont commencé le strongman et terminé leur carrière sans briser ce record.
Samedi en Écosse, ce colosse d'1m90 et 180 kg a battu le record mondial du log lift qui consiste à lever des troncs de bois en soulevant 229 kg, soit un kilo de plus que ce qu'avait réussi le Lituanien Gidrunas Savikas il y a 16 ans. Sa motivation supplémentaire pour briser ce record, le décès récent de son père.
Les 4 dernières semaines n'ont pas été faciles. Papa nous a quittés et c'était un devoir pour moi de toujours l'honorer et aussi honorer le Burkina Faso comme il l'a toujours voulu.
Les autorités, les fans venus accueillir le champion du monde à l'aéroport, ce sont des moments attendus en sport. Dominique Nana, ministre burkinabé des sports.
C'est les moments les plus agréables lorsque le compétiteur revient avec le trophée. Déjà, cette grande joie que nous partageons ce soir.
Taleb Kagamba, fan d'Iron Bibi.
Pour moi personnellement, après Thomas Sankara qui a pu changer le nom du pays, là, il fait beaucoup pour le pays et grâce à lui, on connaît le nom du Burkina Faso et le drapeau du pays même flotte dans des coins où on n'aurait jamais imaginé ça.
Iron Bibi a découvert la musculation en 2009 à 17 ans alors qu'il venait de s'installer au Canada pour y rejoindre son grand frère et terminer ses années de lycée. 4 ans plus tard, sa force impressionne des gens du milieu. Surpris qu'un amateur soulève de telles charges, il gravira rapidement les échelons jusqu'à devenir champion du monde de log lift.
Merci Bagassi. Football, la FIFA compte organiser un sommet en ligne le 30 septembre pour consulter ses fédérations membres sur la réforme du calendrier international. L'annonce a été faite hier par l'instance mondiale du ballon rond.
Merci à Yakuba pour les sports. Vous êtes à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakiza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Des Maliens désapprouvent la récente mise en garde de la CDAO vis-à-vis des autorités de Bamako. Les réactions dans ce reportage de Mohamed Danyoko.
Suite à des informations diffusées par certains médias internationaux et reprises par des médias locaux sur un éventuel partenariat entre les autorités de la transition et le groupe russe Wagner, la CEDEAO, lors de sa dernière session tenue à Accra, au Ghana, a mis en garde les autorités maliennes. Des menaces qui irritent certains Maliens.
Mon avis, ils n'ont qu'à sanctionner. Depuis, ils ont sanctionné le Mali. Oh oui, ils n'ont qu'à sanctionner, ça nous fait rien. Voilà. Les Maliens, nous sommes Maliens. On doit se battre pour le pays, non? Ou bien? Voilà, ils n'ont qu'à faire comme ils veulent. Eux aussi, ils sont dans un pays. Voilà, c'est tout. Ça nous causera aucun problème.
Si certains estiment que ces menaces sont bien fondées et que les autorités maliennes gagneraient à les prendre en compte tenu de la sanction de suspension qui pèse sur le Mali au niveau de l'instance régionale, d'autres pensent plutôt que la CEDEAO devrait prendre en compte les aspirations du peuple malien et surtout de ses autorités.
Les sanctions de la CEDEAO, quant à moi, la CEDEAO devrait donner le temps aux militaires de prolonger un peu la transition. Parce que c'est eux qui savent si ça peut se faire ou si ça ne peut pas se faire. Donc, ils n'ont qu'à nous donner le temps.
Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a fait un communiqué dans lequel il est mentionné que la CEDEAO se fonde sur des rumeurs pour tenser les autorités. Il préconise plutôt la voie diplomatique pour en parler. D'aucuns estiment que la CEDEAO devrait faire preuve de patience auprès du Mali.
Nous comprendre pour vraiment trouver une solution, quoi. Parce que ça fait longtemps que le Mali est membre fondateur de la CEDEAO.
Si le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a estimé dans sa dernière sortie que le Mali doit avoir un plan B au cas où, le communiqué du ministre des Affaires étrangères estime qu'il s'agit de rumeurs. Mohamed Danyoko, VOA Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Côte d'Ivoire, résurgence du débat sur la limitation d'âge pour les candidats aux élections présidentielles. La mesure est présentée par ses défenseurs comme un levier pour renouveler la classe politique vieillissante et faire la place à de nouvelles générations. Jean-Roger Bion a joint à Abidjan l'analyste politique Sylvain Nguessan pour les enjeux et les perspectives.
Il y a qu'aujourd'hui, cette constitution donne tellement de pouvoir au président de la République que nous estimons que celui qui doit diriger la Côte d'Ivoire devra, dans la mesure du possible, avoir une santé qui lui permette de répondre aux clauses de cette constitution et donc au pouvoir élargi qu'attribue cette constitution au président de la République. D'où le débat qui a été suscité en vue de la modification constitutionnelle pour amener la limite d'âge à 75 ans, comme la constitution de juillet 2020 l'avait demandé. Donc, bien fort heureusement, la société civile en parle depuis un certain temps. Il y a le député de Tiassalé, M. Achalé Temoko, qui, lui, a la possibilité de suggérer un projet de loi selon l'article 117 de notre constitution, qui s'est approprié le projet et qui a fait savoir à la Côte d'Ivoire entière qu'à la rentrée parlementaire d'avril 2022, il proposerait cette réforme constitutionnelle à l'Assemblée nationale.
L'opération, M. Nguessan, à y voir de près, vise les présidents Ouattara, âgés de 79 ans, Bédié, 87 ans, et Gbagbo, 76 ans. Est-ce que cela ne vous paraît pas antidémocratique de vouloir se débarrasser de la vieille classe politique par la législation, par la loi?
Dans le lot de ceux qui veulent la réforme, cette réforme constitutionnelle, il y a plusieurs chambres. Il y a ceux qui visent directement ces trois leaders, qui ne sont pas les seuls d'ailleurs, ceux qui, en interrogeant l'histoire de l'Afrique, au regard de ce qui s'est passé à la fin du règne du président Oufoué, qui passait tout son temps en Europe pour des soins médicaux au lieu de diriger la Côte d'Ivoire, il y a le cas de l'Algérie avec M. Bouteflika, il y a eu le cas de M. Bourguiba, etc., etc. Les présidents qui étaient tellement si âgés qu'ils n'arrivaient plus à diriger leur pays. Et on a vu un peu les conséquences de coup d'État un peu partout. Alors, fort de cette leçon que nous pouvons tirer de l'histoire, et j'insiste là-dessus, au regard des pouvoirs que donne la Constitution au président de la République, il serait intéressant que le premier citoyen puisse avoir toutes ses capacités pour pouvoir jouir de ces pouvoirs-là pour le bien-être des différentes populations.
Monsieur Nguessan, dans le contexte ivoirien actuel, il y a une réserve sur la capacité d'initiative. Qui, selon vous, doit appuyer le bouton? Est-ce que le pouvoir ivoirien en ce moment se sent concerné par ce débat?
L'article 117 donne la possibilité et au président de la République et aux députés de susciter cette réforme. Alors, il y a un député qui suscite la réforme, bien évidemment, il est de la société civile, donc les groupes parlementaires des différents appareils politiques ont leur mot à dire. S'ils sont pour, naturellement, la modification passera à l'Assemblée nationale, ils sont contre, cette modification ne passera pas. Donc, les différents présidents des groupes parlementaires ne se sont pas encore prononcés, à tant que convenu. C'est-à-dire en avril 2022, dans environ 7 mois, on verra un peu la posture de ces différentes formations politiques.
Sylvain Nguessan, analyste politique, directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Les autorités américaines ont fermé le port d'entrée de Del Rio au Texas alors que plus de 12 000 Haïtiens demandeurs d'asile sont arrivés. L'administration Biden les rapatrie par avion dans ce qui pourrait être l'expulsion massive de migrants la plus rapide de l'histoire des États-Unis. Un reportage de Dina Mitchell, le récit est de Rosine Munezero.
Le port d'entrée entre les États-Unis et le Mexique à Del Rio au Texas est resté fermé lundi. Plus de 12 000 migrants, principalement haïtiens, continuaient de se rassembler sur le sol américain, sous le pont de Del Rio, en attendant d'être mis en détention. John Anfinsen, président local du syndicat de la patrouille frontalière secteur Del Rio, nous raconte les faits.
Hier, c'était dans les 14 000. Et depuis que le DPS est arrivé et qu'ils ont pu bloquer certains des embarquements à la rivière, nous sommes tombés à environ 12 000.
Depuis plusieurs jours, les autorités américaines s'efforcent de faire sortir les migrants de sous le pont et de les éloigner de la chaleur pour les amener vers des centres de traitement où les autorités déterminent qui peut demander l'asile et qui sera renvoyé en Haïti par avion. La plupart des Haïtiens qui sont arrivés ici disent qu'ils vivaient au Brésil et au Chili, sortant depuis le tremblement de terre de 2010. Ils ont entrepris le long voyage vers les États-Unis, encouragé par le bouche à oreille selon lequel c'était le moment idéal pour essayer de traverser la frontière. Jean est un migrant haïtien. Il dit qu'il a passé les derniers mois au Mexique, à la frontière de Guatemala, retenue par le gouvernement mexicain.
C'est très difficile pour moi. Par exemple, j'ai passé deux mois sans travailler, sans rien manger.
Ces dernières semaines, le pont est devenu un lieu de rétention pour les migrants traversant le fleuve Rio Grande, tandis que les agents de la patrouille frontalière s'efforçaient de gérer l'afflux massif. John Anfinsen, avec la patrouille frontalière.
Les gardes frontières du secteur de Del Rio n'ont pas pu contrôler correctement sur le terrain depuis plusieurs mois maintenant, parce que nous sommes tous à l'intérieur à nous occuper du traitement des enfants qui sont sous notre garde.
Certains résidents locaux disent que le simple nombre de migrants les rend nerveux. Peggy Duran est une résidente de Del Rio.
Quand vous avez plus de 20 000 personnes sous le pont et quand les patrouilles commencent, les gens commencent à s'agiter. Et ici, on parle d'une communauté de 45 000 personnes. C'est la moitié de la population de cette ville.
Les États-Unis ont expulsé par avion plus de 3 000 migrants haïtiens et ont prévu d'autres vols dans les jours à venir, dans ce que certains appellent l'expulsion à grande échelle de migrants la plus rapide de l'histoire des États-Unis. Mais Haïti, avec son récent tremblement de terre et ses troubles politiques, n'est pas en mesure de gérer le retour des citoyens, selon les défenseurs des migrants. Pour les migrants haïtiens, arriver au Texas pour être déporté a été dévastateur. Dieudonné Cassagne, qui a vécu et travaillé en Amérique du Sud, est maintenant de retour en Haïti.
Le voyage pour arriver aux États-Unis a été difficile. Les États-Unis nous ont déportés. Malheureusement, ils ne nous ont laissé prendre aucune de nos affaires. C'était comme être en prison. Pas de nourriture, rien.
Ceux qui sont renvoyés en Haïti reçoivent 100 dollars et leur rêve de vivre et de travailler aux États-Unis semble terminé.
Ici aux États-Unis, le conseiller médical en chef de la Maison-Blanche a déclaré que les scientifiques soutiennent une récente décision de la Food and Drug Administration, FDA, l'Agence américaine du médicament d'attendre un plan général pour injecter les doses de rappel de COVID-19. Il a ajouté que les enfants de moins de 12 ans pourraient bientôt être autorisés à être vaccinés. Pendant ce temps, une exposition à Washington montre l'ampleur des décès causés par la pandémie. Reportage d'Arash Arabassadi, relaté par Mohamedou Oumfa.
Plus de 660 000 drapeaux sont plantés dans le jardin du National Mall à Washington pour marquer le souvenir des Américains décédés depuis 2020 à cause de la pandémie de COVID-19. Cette exposition est intervenue alors qu'un groupe consultatif de la FDA, Food and Drug Administration, a rejeté la fin de la semaine dernière un plan visant à offrir des doses de rappel à la plupart des Américains, les données de sécurité étant limitées pour le moment, notamment pour l'un des fabricants de vaccins, Pfizer. Le conseiller médical en chef du président Biden, le docteur Anthony Fauci, a déclaré dimanche à l'émission This Week d'ABC que bien que le rappel de Pfizer n'ait pas été largement approuvé, de nombreux Américains restent éligibles.
L'approbation était destinée aux personnes âgées de 65 ans ou plus ou à un nombre considérable de personnes âgées de 18 à 64 ans souffrant d'affections sous-jacentes qui les exposent à un risque plus élevé de maladies graves et aux personnes de 18 à 64 ans qui sont exposées à un risque accru d'infection.
Le président Joe Biden a récemment annoncé un plan visant à rendre obligatoire la vaccination de millions d'Américains travaillant pour le gouvernement fédéral ou dans des entreprises d'au moins 100 employés. Il a accusé les gouverneurs républicains de politiser la pandémie.
En Mississippi,
au Mississippi, les enfants doivent être vaccinés contre la rougeole, les oreillons, la rubéole, la varicelle, l'hépatite B, la polio, le tétanos, etc. Ce sont des exigences de l'État. Mais au milieu d'une pandémie qui a déjà fait plus de 660 000 morts, je propose une exigence pour les vaccins COVID et le gouverneur de cet État l'appelle « décision tyrannique ». Un geste typiquement tyrannique.
Le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, un critique du président, a déclaré que l'obligation vaccinale décrétée par la Maison-Blanche annulerait des emplois et supprimerait les droits individuels.
Lorsque vous avez un président comme Biden qui prend des décrets anticonstitutionnels contre le peuple américain, nous avons la responsabilité de défendre la Constitution et de riposter. Et nous le faisons dans l'État de Floride.
Pourtant, selon le site Statista.com, la Floride compte le troisième plus grand nombre de cas de COVID dans le pays. Pendant ce temps, le New York Times rapporte que l'administration Biden négocie avec Pfizer pour acheter un demi-milliard supplémentaire de doses de son vaccin à offrir à d'autres pays.
Avec vous, Washington Forum se déplace à New York, qui sera la capitale diplomatique mondiale cette semaine à l'occasion de la 76e Assemblée générale des Nations Unies. Les dirigeants de 193 pays prendront la parole soit devant la tribune de l'Assemblée générale, soit par visioconférence pour évoquer les grands sujets du moment. Pour la deuxième année consécutive, le COVID impactera les débats et le déroulement de l'événement. Pour l'Afrique, il sera question d'accès aux vaccins, de résolution des conflits qui minent le continent, l'environnement et le développement. Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et voaafrique.com.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Georges Léonard Sagnot, Joselle Morissin, Lionel Mounanilagahima et Michel Claire-Joseph. Eric Manilakidza était à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, restez branchés sur voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM.
Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur V.